VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 18 novembre 2019, en direct de Washington. Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
À Dakar, le Sénégal et la France s'accordent pour lutter contre l'immigration irrégulière.
Par ailleurs, la France remet au Sénégal un sabre chargé d'histoire et de signification politique.
Des commerces béninois ont été attaqués à la frontière avec le Nigeria. L'ambassadeur d'Abuja convoqué par les autorités.
En Afrique du Sud, le premier syndicat du pays appelle à élargir la grève de la South African Airways à tout le secteur aérien.
À Hong Kong, des manifestants pro-démocratie incendient l'entrée d'un campus où ils sont retranchés, tandis que la police menace d'user de balles réelles.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La France et le Sénégal ont renouvelé hier leur engagement à coopérer pour lutter contre les migrations irrégulières à l'occasion de la visite à Dakar du Premier ministre français. Édouard Philippe est venu également s'entretenir avec le président Macky Sall de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Dans un contexte sécuritaire très dégradé, marqué par plusieurs attaques djihadistes au Mali et au Burkina Faso, les questions militaires rebondiront lors de l'ouverture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ce lundi.
Par ailleurs, le Premier ministre français a restitué au nom de son pays le sabre d'Elhadj Omar Fouti Youtal, un souverain et guide religieux soufi sénégalais considéré alors comme l'un des plus farouches opposants à la pénétration coloniale. La cérémonie s'est tenue ce dimanche au Palais de la République en présence du président Macky Sall. Compte rendu de notre correspondant sur place, Seydina Abagay.
Le premier ministre français a remis le sabre d'Elhadj Omar Fouti Youtal au président de la République Macky Sall, un moment solennel et historique accompagné d'applaudissements et des Allahu Akbar. Dans ces moments empreints d'émotion, le sabre est par la suite remis au ministre de la Culture du Sénégal, qui l'a à son tour confié au directeur du musée des civilisations noires. Le porte-parole de la famille d'Elhadj Omar Fouti Youtal, après avoir remercié la France, a rappelé qu'une importante partie de leur patrimoine reste toujours dans l'Hexagone, en particulier 517 livres et manuscrits de Ségou, le trésor, la collection privée Archinard, les 150 photos de la collection Archinard et la peau de prière, ainsi que divers autres objets ayant appartenu à leurs ancêtres. De son côté, le président de la République Macky Sall a qualifié l'événement d'historique. Pour lui, cette cérémonie de remise symbolique s'inscrit dans une dynamique de restitution du patrimoine culturel africain. Le chef de l'État sénégalais estime qu'en restituant le sabre, la France célèbre en même temps sa grandeur. Il ajoute par ailleurs qu'avec cette restitution, la France ouvre la voie à tous ceux qui détiennent le patrimoine africain. Le président Sall a conclu en affirmant que le Sénégal est prêt à accueillir son patrimoine, car le patrimoine rapatrié à sa source fera aussi place à l'échange par une circularité ouverte à l'Afrique, à l'Europe et au reste du monde. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Érudit musulman et guide de l'importante confrérie des Tiganes, Elhadj Omar fut à l'origine de l'empire tout couleur qui comprenait la Guinée, le Mali et le Sénégal actuel. Il combattit les troupes françaises de 1857 à 1859 avant de signer un traité de paix avec eux en 1860 avec les troupes françaises. Selon des historiens sénégalais, il disparut mystérieusement dans les falaises de Bandiagara au Mali en 1864.
L'ambassadeur du Nigeria à Cotonou a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Aurélien Agbenansi, à la suite d'attaques contre des commerçants béninois à la frontière entre les deux pays. Ces attaques ont été perpétrées vendredi dernier par des hommes en armes venus du Nigeria. Ce pays a fermé sans avertissement depuis le 21 août ses frontières terrestres avec le Bénin, qu'il accuse de faire entrer sur son territoire du riz importé, portant un coup à la production locale.
En Algérie, début hier de la campagne électorale pour la présidentielle, 7 mois après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Mais le déroulement et l'issue de ce scrutin restent incertains en raison de son rejet par le mouvement de contestation Bagassi Koura.
Oui, les 5 candidats en lice ont tous participé ou soutenu les 2 décennies de présidence Bouteflika et sont vilipendés par une bonne partie de la population. Parmi eux, les ex-premiers ministres Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune des septuagénaires qui font figure de favoris. À leur côté, Azzedine Mihoubi Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Benguerina. La campagne, qui se terminera le 8 décembre à minuit, trois jours avant le scrutin, s'annonce très difficile, avertit l'universitaire Mohamed Ennad. J'espère qu'il n'y aura pas de violence et que la contestation demeurera pacifique, a-t-il dit. En ce premier jour, aucun candidat n'a organisé de meeting à Alger ou dans une des grandes villes du Nord où le refus du scrutin est clamé chaque semaine. Le Hirak, mouvement de contestation inédit, apparu en février, ne faiblit pas. Des manifestations massives continuent chaque semaine et refusent plus que jamais la tenue d'une présidentielle.
Le principal syndicat sud-africain, NUMSA, a appelé dimanche à élargir une grève déclenchée par les employés de la compagnie aérienne South African Airways à l'ensemble du secteur aérien du pays. La grève, à laquelle participent quelques 3 000 des 5 000 employés de la compagnie, a été déclenchée vendredi pour s'opposer à un plan de restructuration de la compagnie nationale en grave difficulté financière. La grève, qui a déjà provoqué l'annulation de 300 vols, coûte environ 52 millions de rand, 3,5 millions de dollars par jour à la compagnie, selon celle-ci.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Irak, des milliers de personnes sont descendues dans la rue hier à travers le pays suite à un appel à la grève générale en soutien aux manifestants qui réclament un changement de régime depuis plusieurs semaines. Jean-Roger Bion.
Ce mouvement de contestation inédit a débuté le 1er octobre et a été émaillé de violences qui ont fait au moins 330 morts et près de 15 000 blessés, en majorité des manifestants. À Bagdad, les manifestants ont élargi leur sit-in de la place Tahrir au pont Al-Ahra, plus au nord. Au total, les manifestants occupent des sections de trois ponts de la capitale. Les protestataires ont été confrontés à des tirs nourris et des tirs de lacrymogènes en avançant vers le pont Al-Ahra, selon des témoins. Un manifestant a été tué après avoir été blessé par une grenade lacrymogène et 40 autres ont été blessés, selon une source médicale citée par l'AFP. Une autre personne a été blessée tard dimanche par le tir d'une roquette dans une rue commerçante sur la rive orientale du Tigré à Bagdad. Depuis plus de 3 semaines, des manifestants sont rassemblés place Tahrir à Bagdad, réclamant le départ de la classe politique jugée corrompue et incompétente.
En Iran, les autorités ont averti dimanche qu'elles ne toléreraient pas ce qu'elles ont appelé l'insécurité après 2 jours de manifestations violentes contre une hausse soudaine du prix de l'essence. Manifestations qui ont fait au moins 2 morts et poussé Téhéran à couper l'accès à Internet. Depuis le début de la contestation vendredi soir, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, selon des informations de la presse iranienne.
À Hong Kong, des manifestants pro-démocratie ont incendié ce matin l'entrée du campus où ils sont retranchés pour empêcher une intervention de la police. Celle-ci menace de son côté de répondre avec des balles réelles aux armes létales, selon elle, des protestataires. De nouveau, Bagassi Koura.
Oui, c'est après qu'un policier a été blessé dimanche par une flèche tirée par un manifestant autour de ce campus cerné par des barricades en flammes que la police a lancé dans la nuit son avertissement sur l'utilisation de balles réelles, le premier de ce type depuis le début des protestations. Depuis juin, l'ex-colonie britannique de 7,5 millions d'habitants est secouée par la pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, une crise nourrie par la mainmise grandissante de Pékin et le recul des libertés, une contestation qui a atteint cette semaine de nouveaux sommets de violence. Dimanche soir, des centaines de protestataires étaient retranchés dans l'université polytechnique de Hong Kong à Kowloon, où ils ont allumé de grands feux pour empêcher la police de la reprendre. Ils ont aussi maintenu le blocage du Cross Harbour Tunnel, un tunnel routier desservant l'île de Hong Kong fermé depuis mardi. Les médias officiels ont plusieurs fois averti que l'armée chinoise stationnée dans la région semi-autonome pourrait intervenir pour réprimer le mouvement. Le président Xi Jinping a adressé cette semaine sa mise en garde la plus claire à ce jour, affirmant que la contestation menaçait le principe « un pays, deux systèmes » qui a présidé à la rétrocession.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco avec Nanit Talani.
Les ventes de diamants ont rapporté à l'Angola environ 295 millions de dollars au troisième trimestre 2019, soit une augmentation de 11,7% qui représente 30,7 millions de dollars, écrit l'agence Macao. Pour réaliser cette performance, le pays a vendu 2,94 millions de carats, soit une hausse de 46% par rapport au volume vendu durant le troisième trimestre de l'an dernier. Le principal marché des des diamants angolais demeurent les Émirats arabes unis. Le Fonds monétaire international annonce avoir convenu d'un accord d'assistance financière avec la République démocratique du Congo pour lui permettre de reprendre ses opérations de prêt dans le pays, suspendues depuis 2012. Les conditions de la facilité de crédit rapide seront soumises au Conseil d'administration du FMI à la mi-décembre pour approbation finale. Par ailleurs, l'institution insiste aussi sur l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer les investisseurs. La Société béninoise d'énergie électrique a confié à la société américaine Itron la modernisation de son système de distribution électrique. La compagnie fournira 40 000 compteurs et une plateforme de gestion du prépaiement de l'énergie. Les consommateurs béninois pourront payer leurs factures sur Internet et leur téléphone par le biais d'applications. La SBE, qui dessert plus de 600 000 clients, compte sur ces nouvelles infrastructures pour améliorer la collecte de son revenu.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, début de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 et pas de grande surprise. Les favoris ont tenu leur rang.
Oui, à l'image du Mali, vainqueur au Tchad 2-0 pour occuper la tête du groupe A, égalité avec la Guinée qui s'est imposée 2-0 également contre la Namibie. Dans le groupe B, le Burkina Faso signe sa première victoire dans ses éliminatoires au Sud-Soudan. Score 2-1. Les étalons sont deuxième du groupe derrière l'Ouganda, vainqueur 2-0 du Malawi. Et puis, de son côté, le Sénégal enchaîne dans son groupe I. Deuxième match, deuxième victoire, succès logique en Eswatini, 4-1. Le Congo prend la deuxième place du groupe grâce à sa victoire 3-0, dépend de la Guinée-Bissau.
Première victoire pour le Congo, première aussi pour le Bénin.
Les écureuils devraient réagir après leur défaite au Nigeria. Et c'est chose faite. Succès 1-0 contre la Sierra Leone. But de Jordel Dossou. Service minimum dans un match difficile. Reconnaît Michel Dussué, le sélectionneur du Bénin.
On peut toujours mieux faire. Mais vous savez comme moi, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est toujours des batailles, quoi. C'est toujours difficile. Et jouer à cette horreur, c'est pas nous, ça nous aide pas non plus, quoi. Donc oui, il y a des matchs comme ça où on ne gagne pas avec la manière, mais l'essentiel c'est de gagner, quoi, de prendre les trois points. Parce qu'à domicile, il faut s'imposer. Des équipes comme la Sierra Leone et le Lesotho sont nos concurrents directs pour la qualification. Donc il faut satisfaction d'avoir pris les trois points.
Dans ce même groupe, le Nigeria a réussi la passe de 2 en gagnant 4-2 au Lesotho. Et puis 1-0 pour l'Afrique du Sud contre le Soudan. Même score en faveur du Cameroun sur le terrain du Rwanda. Enfin 2-1 pour le Gabon face à l'Angola.
Élisez la suite des matchs de cette deuxième journée.
Et 6 matchs sont à suivre ce lundi. On aura entre autres Kenya-Togo, Comores-Égypte et Botswana-Algérie. Enfin, cette journée s'achève demain mardi avec 7 rencontres dont Mauritanie-Centrafrique, Burundi-Maroc, Guinée-Équatoriale, la Tunisie, Niger, Madagascar et puis Éthiopie-Côte d'Ivoire.
Cyclisme à présent, l'édition 2019 du Tour du Sénégal qui s'est achevé hier à Dakar.
Oui, et victoire finale du coureur rwandais Didier Munyeneza qui a gardé 9 secondes sur l'allemand Hermann Keller à 21 ans. C'est son premier succès important sur un tour international.
Basketball préliminaire du tournoi qualificatif féminin pour les JO à Tokyo et on connaît les qualifiés en Afrique pour le tour final.
En demi-finale disputée hier, le Mozambique crée la surprise en venant à bout du Sénégal 56-49 et le Nigeria a écarté le Mali 114-59. Mozambicaines et Nigérianes vont disputer un dernier tour de qualification qui va réunir 16 pays en février prochain. Et puis la NBA pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Eh bien, Philadelphie et Cleveland, 114-95. Sacramento bat Boston, 100-99. Orlando bat Washington, 125-121. Denver et Memphis, 131-114. Et la Nouvelle-Orléans bat Golden State, oui, Golden State encore, 108-100. Et Los Angeles Lakers massacre Atlanta, 122-101.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Tchad va envoyer des soldats pour sécuriser les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui peinent à freiner les attaques djihadistes. Mais la décision du président Idriss Déby Itno ne fait pas l'unanimité dans le pays, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kodmajingar.
Après plusieurs semaines de débats au sujet du réajustement du dispositif de combat de la coalition du G5 Sahel, le président tchadien a finalement accepté d'y déployer ses troupes. La décision a été prise après la visite de la ministre française des armées en N'Djamena il y a plus de deux semaines. Un engagement diversement apprécié en N'Djamena.
Déby seul, en tant qu'individu, ne peut pas utiliser notre armée comme les pions sur les jeux de dames. Il les déplace quand ça fait son intérêt. Il fait le chantage avec. Après, quand il trouve que ça va le profiter, il les envoie là-bas. Faut que cela cesse.
Maître Bongourou Tchoufil, président du Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad. Pour lui, le président Déby tire un bénéfice politique sur le déploiement de plusieurs milliers d'hommes à l'extérieur sur les théâtres des opérations de guerre.
On sait que le président de la République est subtil en cette matière. Il se fait passer pour le rempart contre le terrorisme et puis c'est nos enfants, ce sont nos familles qui sont endeuillées tous les jours. Tirant les leçons de ce qui s'est passé au Mali, on ne va pas aveuglément accepter parce que le président a dit, non?
Pour Bayram Tar Prosper, député à l'Assemblée nationale, le peuple tchadien attend du gouvernement le bilan des pertes en vies humaines et le coût financier du déploiement des militaires tchadiens au Mali depuis 2011.
De toutes les manières, l'Assemblée nationale n'est pas saisie, donc nous attendons de voir les arguments qui seront avancés pour que nous donnions notre position sur ce sujet. Mais avec la situation de crise sociale où les fonctionnaires ne sont pas encore rétablis dans leurs droits, où les 20 000 jeunes diplômés sans emploi promis pour l'intégration à la fonction publique en 2020 n'ont pas encore vu leur dossier engagé, où les hôpitaux manquent cruellement de médicaments et que le palu tue la population tchadienne à merveille, il serait cynique que le gouvernement tchadien dépense l'argent de notre trésor public pour satisfaire les autres nations et que nous ne bénéficierons que l'enterrement de nos soldats.
Cette opposition rate une fois de plus l'occasion d'être à l'unisson du peuple tchadien.
Jean-Bernard Padaré est le secrétaire national chargé du groupement socio-professionnel du parti au pouvoir.
La paix n'a pas de prix. Donc pour moi, ceux qui sont pour les espèces sonnantes et trébuchantes sont des boutiquiers. L'adage africain dit quand la case de votre voisin brûle, la prochaine étape, ça sera la vôtre. Le président Déby a pris le temps d'évaluer le pour et le contre en termes de sécurité de nos troupes et surtout en termes de sécurité pour nos frères africains. Qu'est-ce que le déploiement des troupes dans la zone sahélienne peut rapporter en termes de victoire électorale?
Selon le député Bayram Tar Prosper, les dispositions de la nouvelle constitution ne laissent aucune chance à l'Assemblée nationale d'interpeller le président sur cette question. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Mali même, des manifestations se multiplient à Bamako pour soutenir l'armée et demander au gouvernement un meilleur équipement militaire. Beaucoup dénoncent aussi la présence des forces étrangères. Pour une analyse, Bagassi Koura, adjoint à Bamako, Nuhun Togo. Il est analyste et membre de l'opposition.
Les gens disent qu'ils ont été abandonnés. Comment pouvez-vous comprendre que si l'administration pense qu'ils sont venus se poser entre les deux belligérants et que de l'autre côté, ils font attaquer les militaires dans les camps tués et ceux qui sont venus normalement se sécuriser n'arrivent pas à intervenir pour se confier à ces attaques répétées sur nos forces armées. Alors donc, c'est des militaires, c'est des familles. Donc aujourd'hui, ils se sentent abandonnés et ils pensent que la réaction de la communauté internationale n'est pas absolument rien. Pour nous, la réaction des Maliens, c'est très clair, parce que c'est même les Maliens qui ont appuyé ici la France. Ils ont même fait des armes, les drapeaux français. Mais aujourd'hui, si ça arrive, il faut que les gens comprennent parce qu'il y a eu trop de morts. Il y a trop de tueries. Une semaine, deux semaines, plus de 110 morts, 120 morts, c'est trop. Alors donc, c'est réaction. Les Maliens, c'est épouvantable que ça se rejette parce qu'ils pensent réellement qu'à un moment donné, c'est que même France a voulu sauver le Mali, mais au-delà avec la communauté internationale, c'est que la crise devient très difficile à se construire.
Alors, à ce stade, donc, qu'est-ce qui peut être fait?
Il faut que la communauté réveille sa position. Au niveau de l'administration, il faut qu'on réveille le chapitre pour que la communauté internationale envoie le matériel, envoie donc l'administration le chapitre 7 pour intervenir, c'est-à-dire pour combattre le terrorisme. Parce qu'ils disent qu'ils sont là pour combattre le terrorisme, mais le terrorisme continue à gagner du temps.
C'était de Bamako, Nohun, Togo.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Cameroun, la société civile dénonce l'accroissement des volumes d'exportation des grumes de bois. 800 000 mètres cubes ont été exportés entre octobre 2018 et septembre 2019, selon une étude réalisée par des organismes écologiques. Ces résultats, estime-t-il, démontrent que la transformation locale du bois est encore à la traîne. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Le Cameroun subit d'énormes pertes en vendant plus son bois sous forme de grumes, comme l'explique Samuel Guifaud du Centre pour l'environnement et le développement, l'une des organisations à avoir mené l'étude sur la production et l'exportation du bois au Cameroun.
Si on sortait des produits finis de chez nous, ne serait-ce que sur 10 ou 20% du volume total de bois exporté de chez nous, le secteur forestier aurait une contribution incroyable au développement de notre pays, en termes de création d'emplois, en termes de partage de la richesse et en termes de revenus pour le trésor public.
L'incidence financière de l'exportation des grumes est de 60 milliards de francs CFA par an, dont 10 milliards représentant les pertes d'impôts et de taxes. À ce jour, le secteur forestier contribue seulement à 2% au marché de l'emploi, au lieu de 8% si la transformation au premier degré des volumes de grumes exportés était faite localement. Mais l'autre plus grande perte du Cameroun se situe ailleurs.
Il y a une pression accrue sur un nombre réduit d'essences.
Achille Wanke est forestier. Il a dirigé l'étude sur la production et l'exportation du bois au Cameroun.
C'est les ogres qui nous exigent certaines essences. Par exemple, moins de 10 représente à peu près 80% de l'exploitation forestière. Et ça entraîne la perte de la biodiversité.
En 2018, la Chine, le Vietnam, l'Italie ou encore la Turquie sont les principales destinations des grumes camerounaises. Ces pays ont une main-d'œuvre qualifiée et une meilleure politique d'industrialisation au contraire du Cameroun. Benoît Ndameux, de la branche locale de Environmental Investigation Agency.
Le bois camerounais produit en grumes ne peut pas sortir les frontières du pays. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On ne pourra pas le manger. Donc il faudra le transformer. Aujourd'hui, même les simples cure-dents viennent d'ailleurs. Comment on ne peut pas mettre sur pied des structures qui peuvent transformer ne fût-ce que ce type d'ustensile dont on a besoin tous les jours?
En 1994, lors de l'adoption de la loi forestière, les parlementaires ont recommandé la transformation locale du bois. Mais seulement 160 unités de transformation du bois sont opérationnelles au Cameroun. Qui prive les communautés locales de dividendes escomptés. Bruno Mvondo, président du réseau des chefs traditionnels pour la gestion durable des écosystèmes en Afrique centrale.
On se rend compte que partout où il y a des investissements, c'est dans ces localités que les communautés sont les plus pauvres. Pourquoi cela? Alors qu'il fallait qu'en réalité, là où il y a un investissement industriel, que ce soit au niveau que les communautés soient riches. Et ainsi, vous verrez que toutes les autres communautés ont besoin de cet investissement.
15 entreprises d'exploitation forestière ont été suspendues ce mois par le ministre de la Forêt et de la Faune pour fraude, violation des clauses, non-respect des normes ou exploitation non autorisée. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le comité nigérian pour les Oscars exhorte les cinéastes nigérians à utiliser davantage de langues locales dans leurs productions. À noter que l'Académie des Oscars, ici aux États-Unis, a disqualifié une entrée nigérienne dans la catégorie long métrage étranger parce que le film utilisait trop d'anglais. Certains réalisateurs à Nollywood soutiennent l'idée des langues locales, mais d'autres affirment que ça limite leur audience. Reportage de Timothée Obiezu à Abuja, repris ici par Arzuma Compaoré.
Desmond Utomwen, réalisateur à Nollywood, ambitionne de remporter un jour un Oscar en produisant un film en langue Yoruba, Hausa, ou dans une des langues parlées au Nigeria.
En fait, c'est un film Hausa, ce n'est pas en anglais. J'en ai tourné quelques-uns en anglais, mais c'est mon premier film en Hausa.
La plupart des cinéastes nigérians tournent des films en langue anglaise pour toucher un public plus large, mais également à l'intérieur du Nigeria, ancienne colonie britannique où l'anglais est la langue officielle. Darlington Abuda fait des films depuis plusieurs années.
In Nigeria, if I do a purely language-based film,
au Nigeria, si je fais un film exclusivement en langue locale, je fais de mon film un film régional. Il ne suscitera pas l'intérêt et l'attrait dont il a besoin dans les autres régions du pays.
Mais la tendance est peut-être en train de s'inverser lentement. L'Académie des Oscars aux États-Unis a annulé la première participation nigériane dans la catégorie des longs métrages étrangers. Seulement 11 minutes du film de Geneviève Nadji, intitulé Cœur de Lion, premier film de Nollywood produit par Netflix, ont été en langue Igbo. Seulement 11 minutes et tout le reste est joué en anglais. Pour se qualifier aux Oscars du meilleur film étranger, au moins 50% du dialogue de ce film doit être dans une langue autre que l'anglais. Ce rejet de l'Académie basée à Hollywood a été vivement critiqué au Nigeria. Seiji Obasi est membre du comité nigérian pour les Oscars, créé il y a 5 ans.
Si vous regardez la situation d'ensemble, on peut dire que c'est une victoire parce que nous avons fait une soumission la toute première fois. Ce que cela fait, c'est qu'elle repositionne les cœurs et les esprits sur la manière dont nous allons raconter nos histoires et aller de l'avant.
Le comité de sélection du Nigeria estime que ce rejet devrait motiver les cinéastes à faire plus de films dans les quelques 500 langues locales. Convaincre les cinéastes nigériens de renoncer à l'anglais, la langue qui unit le pays entre eux et avec le monde, reste un défi. Pour le cinéaste Jim Ike, la langue utilisée n'est pas le problème.
Si quelqu'un s'assoit dans son salon et décide où mon film doit être rangé ou quelle plateforme et récompense je devrais recevoir, ça les regarde. J'ai fait mon travail, j'ai nourri l'artiste en moi.
Même si Cœur de Lion est éliminé de la cérémonie des Oscars en février prochain à Hollywood, avoir bénéficié du soutien de Netflix attire déjà beaucoup plus d'attention internationale sur Nollywood et sur ce que les cinéastes nigériens vont produire par la suite.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
I beg you, make you do the dance. Oh. You look so fine with your busy body. Just enough. So, me say, hey, you ring the bell. Oh.
Let's go.
Cause you feel like say, you be figure it. Oh.
Come on.
I beg you, make you do the dance. Oh.
Yeah.
Make up. If you feel a memory.
Turn it up, turn it up.
Now, if you see my rubber, you gonna say, bad, not the best. And when you see my concom, you gonna say ginger the cup.
Go.
So baby, do me well, and make I feel alright. Bring it to the center, and show me what you got.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.